consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
Un tout dernier mot de tennis à propos des internationaux de Melbourne. Marat Safin, pas très loin de la victoire puisqu'il mène désormais 6 à 5 dans la dernière manche face à Roger Federer. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. Comme promis, on retrouve Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui, à l'occasion du 60e anniversaire de l'arrivée de l'armée rouge à Auschwitz, la libération des camps.
Là, pour la première fois, l'homme a donné des leçons à l'enfer.
D'histoire. Lorsque le 27 janvier 1945, quelques soldats de l'avant-garde de l'armée soviétique arrivaient à Auschwitz, ils ignoraient qu'ils découvraient le lieu qui, depuis 60 ans, jour pour jour, symbolise à lui seul toute l'horreur du système concentrationnaire. C'étaient quatre jeunes soldats, écrit Primo Levi, qui avançaient avec précaution, la mitraillette aux côtés, le long de la route qui bordait le camp. Lorsqu'ils arrivèrent près des barbelés, ils s'arrêtèrent en jetant des regards lourds d'un étrange embarras sur les cadavres en désordre, les baraquements disloqués et sur nous, rares survivants. Ces survivants dont faisait partie Primo Levi étaient trop faibles pour avoir suivi les autres déportés d'Auschwitz, envoyés par les SS quelques jours plus tôt vers d'autres camps qui ne seront libérés que beaucoup plus tard. Et ce n'est qu'à Dachau, à Bergen-Belsen, à Ravensbrück, au Struthof, à Buchenwald, à Mauthausen, à Neuengamme, à Dora ou à Flossenbürg, que les alliés et les journalistes qui les accompagnent comprendront qu'ils assistaient à la fin d'une guerre sans équivalent dans l'histoire. Celle où, pour la première fois, comme le dira plus tard André Malraux, l'homme avait donné des leçons à l'enfer.
Dachau s'est révélé à nos yeux dans toute son horreur, dans toute sa brutale réalité. Avant d'entrer au camp même, nous avons frémi d'émotion, de surprise et de rage en voyant sur notre gauche un train de 50 wagons chargés de cadavres squelettiques et en putréfaction. 50 wagons à raison de 70 corps dans chaque, cela fait 37 000 morts. Il faut voir ces pauvres airs squelettiques entassés les uns sur les autres. Ils n'ont plus de bras, plus de jambes, ce sont des os, uniquement des os assemblés. Ils sont là, les mains crispées, le visage creux, couvert de mouches. Mais ce n'est pas tout. Plus loin, c'est le four crématoire. Nous sommes dans un baraquement à côté de ce four crématoire, car il est impossible de parler dans une telle atmosphère, une atmosphère irrespirable. Ils sont là des centaines et des centaines, entassés sur une hauteur de 2,50 m. C'est atroce, révoltant et irréalisable. Croyez-nous cependant, car nous vous assurons que c'est la réalité.
Anne Weber-Ka, bonjour.
Bonjour.
C'était la libération du camp de Dachau le 29 avril 1945, soit 3 mois après celle d'Auschwitz, dont on commémore aujourd'hui le 60e anniversaire, mais dont on ne parlait pas beaucoup en 1945. Vous le rappelez dans un livre, Auschwitz, 60 ans après, publié chez Lafont. Vous rappelez qu'au début 45, on ignore encore ce qui se passait dans les camps. Et quand on le découvre, on vient de l'entendre dans cette archive, c'est l'incrédulité qui domine. Croyez-moi, disait ce journaliste, car je vous assure que c'est la réalité. Au fond, ce que voient les soldats et les journalistes qui les accompagnent est tellement monstrueux que cela paraît incroyable, y compris pour ceux qui l'écoutent à la radio.
Absolument, La découverte de ces camps par les alliés, qui commence par celle d'Ordruf, un des commandos de Buchenwald, et qui ensuite va se continuer jusqu'à celle de Mauthausen, qui est un des derniers camps ouverts par les Américains, fait brusquement découvrir aux soldats, aux journalistes et au monde, par le biais de reportages comme celui qu'on vient d'écouter, ou par le biais d'images montrer aux actualités ou de photos montrées dans la presse, un spectacle que personne n'avait imaginé.
Et quelque chose qu'on n'imagine pas non plus, qu'on ne connaît pas, c'est la différence que l'on connaît aujourd'hui entre les différents camps. On ne fait pas la différence entre des camps de concentration, comme Dachau, et des camps d'extermination, comme Auschwitz, qui était camp de concentration et camp d'extermination, et encore moins les camps d'extermination qui ne servaient qu'à cela en Pologne, qui étaient Treblinka, Majdanek, Sobibor, Chełmno, je crois, et Belzec.
Oui, dans un premier temps, et ce premier temps va d'ailleurs durer fort longtemps, on ne sait rien de ces endroits qui ne sont pas des camps à proprement parler, Belzec, Sobibor, Treblinka, par exemple, qui sont simplement des installations faites pour tuer et pour faire disparaître les corps. Et on ne fait pas la différence entre les Juifs qui ont été déportés pour être assassinés, une partie d'entre eux entrant dans le système concentrationnaire pour servir de main-d'œuvre aux nazis, et les autres déportés, notamment ceux de la résistance. Et pendant un premier temps, on préfère célébrer les héros, ceux qui ont continué la résistance dans les camps, plutôt que ceux qui ont été simplement des victimes.
Alors cela dit, quand on dit « on ne savait pas », il y avait des gens qui savaient, bien sûr, les responsables du régime nazi, mais aussi quelques hauts responsables alliés qui connaissaient l'existence des camps d'extermination de Pologne et ce qui s'y passait. Écoutez ce ministre du gouvernement polonais en exil à Londres, le comte Radzinski, en avril 1943, 2 ans avant la libération d'Auschwitz, il essayait en vain d'alerter l'opinion.
Extermination of Jews is a definite policy of Germany being carried out now.
L'extermination des Juifs est aujourd'hui en Allemagne une politique délibérée. Selon des rapports officiels, plus d'un tiers des Juifs polonais sur un total de 1 130 000 a déjà été exterminé. Et des centaines de milliers de Juifs originaires d'autres pays ont été déportés en Pologne. Imaginez de grandes villes où toute la population serait fusillée, exterminée de sang-froid, et vous aurez une idée du sort des Juifs de Pologne.
C'est extraordinaire, Anna Diaworka, ce que l'on vient d'entendre, un discours d'ailleurs qui n'a jamais été diffusé par les radios alliées. Autrement dit, 2 ans avant la libération d'Auschwitz, on annonce déjà le début du génocide. Oui. Or, ce que dit le comte Radzinski, les hauts responsables alliés le savaient.
Absolument, absolument. Et la date est importante, c'est en avril 1943, c'est-à-dire au moment de l'insurrection du ghetto de Varsovie. C'est quelques jours après le suicide de Schmuel Ziegelbaum, celui qui représente le Bund à Londres et qui se suicide pour alerter l'opinion. Cela signifie que les informations sont parvenues à Londres, notamment par le biais des courriers de la résistance polonaise, que ces informations ont été transmises aux plus hauts responsables alliés, Roosevelt et Churchill. On connaît bien le rôle de Jan Karski, un de ses envoyés, et que ces informations ont été très peu rediffusées, un peu quand même, on en trouve des traces dans la presse de la résistance en France par exemple, et que surtout, elles ont été incapables de changer quoi que ce soit à ce qui a été le sort des Juifs.
Il a même été question de bombarder Auschwitz à la demande d'ailleurs d'organisations juives.
Oui, alors ce débat est un débat un peu difficile pour les historiens.
Bombarder en tout cas les chambres à gaz.
Parce qu'il est extrêmement anachronique. La demande de bombardement émane très tard, c'est-à-dire dans la dernière phase, qui est la phase de déportation des Juifs hongrois du printemps 1944. Et à ce moment-là, il y a une sorte de jeu de ping-pong entre les différents alliés, et finalement, il n'y a pas de bombardement. Alors, je ne suis pas sûr que les bombardements auraient changé quoi que ce soit. Cette demande est très tardive, c'est-à-dire que l'on peut dire que le génocide est à peu près accompli.
Et surtout, on risquait, bien entendu, parce qu'il n'y a pas la précision d'aujourd'hui, encore s'il y a précision.
Voilà, et on risquait, d'après les estimations même de ceux qui envisageaient ce bombardement, de tuer 10 à 15 000 personnes. Et rien ne garantissait que les Juifs hongrois n'auraient pas été tués autrement que dans les chambres à gaz.
Alors les déportés devront donc attendre 1945 pour être libérés, quand ils n'étaient pas morts. Hein. Libérés d'abord par les Russes, qui pénétraient en Pologne, à l'Est, avant que les Anglo-Américains, eux, n'aient franchi le Rhin à l'Ouest. Les Russes qui arrivent à Auschwitz le 27 janvier 1945, dans le plus grand camp de concentration du système nazi, mais qui était presque désert. Il faut peut-être expliquer pourquoi.
Oui, je trouve qu'il est toujours intéressant de mettre des chiffres un peu en série. 1 100 000 personnes assassinées à Auschwitz. À peu près 6 à 7000 qui sont encore présentes, des moribonds comme Primo Levi décrit, enfin se décrit et décrit ses camarades. Et 60 à 70000 internés, détenus, qui ont été mis sur les routes à partir du 18 janvier par un froid polaire et qui sont finalement en quelque sorte considérés comme une main-d'œuvre potentielle, ce qu'ils seront d'ailleurs pour une partie d'entre eux, que l'on va transporter dans les camps plus à l'ouest pour les mettre à nouveau au travail.
Si bien qu'il ne reste que de très rares survivants, dont celui-ci, George Snyder, qui se trouvait dans l'usine IG Farben d'Auschwitz et qui, il y a 8 ans, nous racontait sa libération d'Auschwitz au micro des Jours du siècle de France Inter en 1996.
J'étais dans une annexe d'Auschwitz qui s'appelait Monowitz. Depuis que nous étions arrivés, on entendait les canons russes au loin. Pendant cette période qui a dû durer, dans mon souvenir, 4-5 jours, une petite semaine, entre le moment où les nazis sont partis en emportant à peu près tout le monde dans un convoi horrible, et puis le moment où le russe est arrivé, il s'était écoulé une semaine où je me suis demandé si j'allais mourir ou si j'allais pouvoir revivre. Et c'est un russe qui, un soir, vers 5 heures, il m'a semblé par hasard à pousser la porte, à regarder autour de lui, et puis s'est rendu compte qu'il était dans un camp. J'ai compris que j'allais revivre.
Et c'est le chant pour les morts d'Auschwitz, Auschwitz libéré il y a 60 ans, jour pour jour, sans que les Russes, Anna Vivorka, qui y sont entrés en premier, en parlent, pas plus qu'ils n'ont parlé ou qu'ils n'ont parlé des autres camps de la mort, des camps d'extermination.
Oui, pour utiliser un anachronisme, on peut dire que la libération d'Auschwitz n'a pas été médiatisée, alors que celle des camps de l'Ouest, quelques mois plus tard, l'a été. Alors, c'est intéressant de voir que pour les soviétiques, c'est un non-événement et que ça restera très très longtemps un non-événement, quelque chose qu'ils ne célèbrent pas. Je pense que c'est dû à plusieurs facteurs et notamment parce que dans la culture soviétique, libérer un camp ou être prisonnier dans un camp n'est l'objet d'aucun titre de gloire. Je pense aussi que, peut-être inconsciemment, on sait qu'il existe en Union soviétique même des endroits avec des barbelés, avec des miradors, qui certes ne sont pas des centres d'extermination, mais sont des camps. Et que ce serait peut-être un lapsus de montrer d'autres camps. Donc, les soviétiques ont pris un certain nombre d'images, ces images que l'on voit constamment lors de la commémoration, qui sont pour la plupart d'entre elles des images mises en scène, mais ces images sont peu montrées, et sont montrées surtout après que la libération des camps de l'Ouest ait été médiatisé.
On ne parle pas non plus, mais ça, il y a une bonne raison, ni de Treblinka, ni de Sobibor, ni des cinq autres camps d'extermination qui n'étaient que des camps d'extermination.
Alors,
Auschwitz étant, il faut le rappeler, extermination et un camp de travail forcé aussi.
Je crois que Majdanek a aussi ce caractère multiple d'être en même temps concentration, centre de travail, mais les quatre autres...
Ils ont été détruits avant,
il faut le rappeler. Ont été détruits. Non seulement ils ont été détruits, mais les traces ont été effacées
par les Allemands.
Par les Allemands, des arbres ont été plantés. Et si on prend par exemple Belzec, où quand même à peu près 600 000 juifs ont été assassinés, il reste pratiquement aucune trace d'archives, aucun témoin. Je crois qu'il y avait deux ou trois survivants du camp de Belzec. Et les lieux eux-mêmes ont été masqués.
Alors en revanche, vous le disiez, Annie Vévorka, quand... Bien après Auschwitz, environ 3 mois ou plus de 2 mois après la libération d'Auschwitz, les alliés à l'ouest commencent à libérer des camps qui, eux, sont des camps de concentration. On en parle beaucoup plus, comme celui de Buchenwald, au nord de Weimar, libéré par les Américains le 11 avril 1945. On écoute le général canadien Vanier le 30 avril 1945, en commençant par des témoignages, justement, de quelques déportés de Buchenwald ce jour-là.
Nous avons été libérés après environ 2 jours d'attente très anxieuse, vous le devinez, car la bataille faisait rage à l'ouest de la position du camp de Buchenwald. Les Américains ont eu un mérite considérable à pousser la bataille, à l'enlever, à être vainqueur, sans causer de perte au camp. Nous n'avons eu aucun camarade de toucher par les bombes, les obus ou les balles de mitrailleuse qui évidemment pleuvaient tout au cours du camp.
Le chiffre officiel inscrit au registre des décès du camp pendant les mois de janvier, février, mars, et les 10 premiers jours d'avril de cette année est de 18 485. Morts, entendez-vous, l'équivalent d'une ville balayée en 3 mois et 10 jours. L'état de santé des internés était tel que pendant plus d'une semaine après la libération, il en est mort 60 par jour. Le nombre des déportés morts à Buchenwald ne sera jamais complètement établi. Plus de 50 000, sûrement, il a atteint peut-être 100 000.
Sur les pentes de la montagne, la forêt de l'Elbe s'étend, et le grand glacé rouge autour de Buchenwald. Passent les nuages, les vents, la neige et les orages. Un jour viendront les tempêtes et pour nous une part de bonheur.
Buchenwald. Avec Dachau, c'était après la guerre le plus connu des camps, même si c'était pas le pire, si on peut établir une hiérarchie dans l'horreur, Annie Vévorka. Mais c'était un camp de prisonniers, un camp de concentration, il n'y avait pas de chambre à gaz, c'était des déportés, c'était des droits communs, mais aussi des déportés politiques, c'est-à-dire des résistants, notamment des résistants français.
Oui, Buchenwald fait partie de ces camps ouverts par le nazisme, le premier étant Dachau. Et on y interne des... Buchenwald est ouvert en 37. On y interne des opposants réels ou supposés du régime nazi, des socialistes, des communistes, des témoins de Jéhovah, des droits communs, avant que ce camp soit une destination pour les déportés. Et c'est d'ailleurs la destination principale des déportés de France. Et parmi ceux qui y ont été... et qui ont survécu, enfin certains ils sont morts, par exemple Maurice Alvax, le grand sociologue pionnier dans les travaux sur la mémoire collective, mais parmi ceux qui ont survécu, des grandes figures qui jouent un rôle politique sous la 4e République, je pense à Christian Pinault, je pense à Claude Bourdet, je pense à Julien Quint. Donc ces gens qui sont d'ailleurs rapatriés par avion très vite, et qui vont les... Marcel Paul, par exemple, pour les communistes. Donc, Buchenwald va être longtemps en France, le camp symbole, loin devant Auschwitz.
Il y a en revanche un camp qui a été effrayant quand il a été libéré, découvert par les Anglo-Américains. C'était pas un camp d'extermination, mais énormément de déportés, notamment beaucoup de rescapés d'Auschwitz qui avaient été envoyés dans ce camp qui est Bergen-Belsen. C'était Bergen-Belsen justement, Annie Wiborka. Ça, c'est un spectacle d'horreur quand les Alliés y entrent.
Alors Bergen-Belsen est un camp extrêmement complexe. Parce qu'il a servi notamment de camp où on internait des gens pour l'échange, pour des éventuels échanges d'otages. Par exemple, ont été déportés deux très petits convois au printemps 1944 d'enfants et d'épouses de prisonniers de guerre juifs. C'était un camp sans grandes usines où on travaillait, c'était un camp où il n'y avait pas de chambre à gaz, c'était un camp où les enfants n'étaient pas séparés de leur mère. Seulement ce camp s'est modifié à la fin de la guerre, puisque ont été conduits un certain nombre de déportés, notamment des déportés juifs d'Auschwitz, dans un lieu où il n'y avait pas les installations sanitaires, où il n'y avait plus rien à manger, et ce camp est devenu un véritable mouroir, où le typhus a fait rage, et les images que l'on connaît bien de ces bulldozers poussant des cadavres décharnés qui figurent notamment dans Nuit et brouillard, sont des images de Bergen-Belsen.
Une expérience effroyable dont se souvenait Simone Veil au micro de l'Histoire en direct de France Culture en 1988.
Tout le monde a eu le typhus, et c'était aussi une maladie qui atteint les centres nerveux, une espèce de... Le monde qui n'existe plus. Il n'y avait plus aucune règle, il n'y avait plus rien. C'était un spectacle de Bruegel, tout à fait. C'était, ou de Bosch, c'était ce qu'on a vu, d'image du Moyen-Âge. On ne tenait plus à la vie, on avait de toute façon plus du tout envie de vivre. Et la libération est arrivée. Je crois le 15, le 17 avril, dans ce contexte dont on ne pouvait même pas se réjouir, parce qu'on ne savait pas du tout si on survivrait. Et d'ailleurs, beaucoup de déportés sont morts à Belsen après la libération.
Ce que l'on voit dans ce camp est indescriptible. On comprend alors pourquoi on se bat. Les photos dans les journaux ne sont rien à côté de la réalité. Ceux qui ont fait ça ne sont pas des hommes.
Quand on pense aujourd'hui à Annie Wiborka, à la libération des camps, on imagine toujours des déportés joyeux se précipitant dans les bras de leur libérateur en souriant. Quand on entend Simone Veil, on voit que c'était pas le cas.
Simone Veil a perdu sa mère, elle raconte dans ses derniers jours de Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, ça a été... Les Anglais ont gardé les internés. Ils ont conservé pour les garder les gardiens hongrois qui étaient là de l'époque nazie, parce que le typhus dont parle Simone Veil faisait peur, et qu'on avait le souvenir de l'épidémie de grippe espagnole après la guerre de 14-18.
Autrement dit, ils ont
donc
été...
Donc on a consigné les
on
gens.
On les a gardés après.
On les a gardés après. Les libérateurs, enfin ceux qui étaient là, ne connaissaient pas les pathologies de ces gens près de la mort de faim. Donc ils ont été alimentés n'importe comment. Et Simone Veil dit qu'on a continué à mourir, comme on a continué à mourir d'ailleurs dans les camps d'Auschwitz. La cérémonie filmée, qui fait partie des images des funérailles de 450 à peu près personnes, ce sont 450 morts à Auschwitz après la libération.
Je crois que c'est entre autres à Bergen-Belsen qu'on a montré, les Alliés ont pris des Allemands de la région pour leur montrer ce qui s'était passé. Est-ce que les Allemands, on a vu que certains responsables alliés étaient au courant, les responsables de ce crime contre l'humanité, les nazis eux-mêmes le savaient bien sûr, est-ce que les Allemands qui vivaient aux alentours étaient au courant?
Alors ça s'est fait à Buchenwald, ça s'est fait à Bergen-Belsen d'obliger la population environnante à regarder. Bien sûr que les gens qui vivaient aux environs des camps savaient qu'il y avait des camps. D'autant que quand on regarde une carte de l'essaimage de ces camps, on s'aperçoit que l'Allemagne est couverte littéralement de milliers et de milliers de commandos de camps, puisqu'on utilise ces internés dans les usines, dans toutes sortes de travaux. Donc, personne ne peut dire qu'on ignorait ce qu'il y avait dans les camps de concentration. Je voudrais dire que les camps de concentration n'ont pas non plus été un secret, n'ont pas voulu être gardés secrets par les nazis. C'est la solution finale qui était, pour reprendre les termes de Lacœur, le terrifiant secret.
Une solution finale que ont nié, bien entendu, les plus hauts responsables allemands à Nuremberg. On se quitte, Annie Levorka, justement, avant de vous retrouver demain pour parler du retour des déportés, on se quitte avec cette archive de procès de Nuremberg qui s'ouvrait 9 mois après la libération d'Auschwitz.
Je vais maintenant demander aux accusés de plaider coupables ou non coupables des accusations portées contre eux.
Hermann Wilhelm Göring.
Göring se lève et passant devant Hess, Ribbentrop et Keitel, s'avancent vers le micro. Ils doivent simplement répondre à la question coupable ou non coupable. Dans ces conditions, je plaide non coupable, Göring.
Rudolf,
yes. Joachim von Ribbentrop. Stimmen im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Wilhelm Pitt. Nicht schuldig. Julius Schäfer. Nicht schuldig.
Je rappelle que Annette Levorka est l'auteur d'un livre qu'il faut lire, Auschwitz, 60 ans après, qui vient d'être publié aux éditions Robert Laffont. Beaucoup d'autres ouvrages, bien sûr, ont été publiés à l'occasion de ce 60e anniversaire et dont vous pouvez retrouver les références sur notre site internet franceinter.com. Je signale aussi l'ouverture du mémorial de la Shoah dans le quartier du Marais, au 17 rue Geoffroy Lanier, dans le 4e arrondissement de Paris. Vous avez pu entendre des extraits des documentaires suivants, les archives couleurs, les images américaines, deux DVD réalisés par Greg Palmer et disponibles chez TF1 Vidéo. Et Auschwitz, le monde savait-il, un documentaire de Didier Martini écrit par Jean-Michel Gaillard et Stéphane Kémis est disponible en DVD chez MK2. Vous avez également pu entendre un extrait du témoignage de Simone Veil recueilli dans l'émission L'Histoire en direct sur la fin des camps, diffusée sur France Culture en avril 1988. Toutes ces références sont disponibles au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci Olivier Ruotor, Claire Destacan, Claire Tesser et Violaine Ballet, ainsi qu'à notre réalisatrice Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, après la libération des camps, nous retrouverons donc Annette Levorka pour parler du retour des déportés. Mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, votre rendez-vous avec Eric Oswald.
Merci Patrice, à demain.